Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
La marche de l'histoire en histoire, on parle souvent de la résistance en France. Vous élargissez un peu la focale aujourd'hui.
Ah bah c'est mon invité qui s'est lancé dans une vaste enquête après avoir fait un fort important livre sur la résistance en France seulement.
Ici Radio Belgique.
Et Radio Belgique.
Et Radio Belgique.
La résistance en Europe occidentale.
La Norvège est en deuil de son roi, un roi auquel elle avait voué une grande affection, comme le prouvent ces images du retour du souverain en 1945. Il fut à Londres pendant les 5 années de guerre, le porte-drapeau de la Norvège libre.
À Copenhague, le Danemark a fait à son roi défunt de solennelles funérailles. 500 000 Danois, massés sur le passage du cortège, regardaient s'en aller celui qui, aux heures tragiques, avait été leur courage et leur défense.
C'est bien naturel, les politiques nationales du souvenir menées après 1945 ont amené à majorer le rôle des résistances internes. Les seuls exemples de la Norvège et du Danemark montrent pourtant combien les circonstances différaient d'un pays à l'autre. À Copenhague, Christian X, resté dans son palais, incarne une manière de refus silencieux que l'occupant, habile pour une fois, tolère, du moins jusqu'en 1943. En Norvège, en revanche, un roi, tout de suite passé à Londres, une nazification qui va bon train et une géographie qui favorise l'insoumission. La reine de Hollande s'est également exilée, mais des partisans peuvent-ils s'établir bien nombreux aux Pays-Bas? Au moins, la reine parle-t-elle au diapason de son gouvernement à Londres? Ce n'est pas le cas pour les Belges. Le maintien du roi Léopold III sur le continent enlève de sa légitimité au Premier ministre Pierre Lot, que les Anglais regardent d'ailleurs d'assez haut. Il convient donc de distinguer des situations très diverses. Il faut surtout redonner un rôle central à la Grande-Bretagne, flanquée au bout d'un moment par les États-Unis. C'est la Grande-Bretagne qui distribue les partitions entre les co-belligérants qui lui restent et qui lui doivent tout. C'est elle qui organise la propagande par la radio. Ce sont ses agents, son argent, ses avions qui permettent l'organisation de réseaux sur le continent. Ce serait donc naïveté de penser qu'elle raisonne dans des termes qui seraient exactement ceux de ses alliés. Plus qu'aux intérêts propres de chaque nation, elle s'attache à ceux de la couronne. Et surtout, après une brève période de romantisme jusqu'en 1941, où elle pensait pouvoir embraser l'Europe, elle sait qu'elle n'est riche que de peu de moyens. Elle ne veut pas les disperser, se refuse donc à soutenir ce qui lui paraît trop coûteux, trop aventureux. D'un côté, ses appels à la résistance accélère le mouvement de protestation des populations, mais elle garde toujours la main sur le frein quand il s'agit des organisations militaires.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Michel Wieworka, bonjour.
Olivier.
Avec Olivier Wieworka, et je n'ai pas cité Annette, évidemment une immense famille de sociologues et d'historiens. Là, je ne me trompe pas quand je raconte que vous avez fait un livre important sur la résistance en France, que connaissait Bruno Duvic. On connaît aussi vos travaux sur la libération, et donc là, tout seul, une vaste enquête chez Perrin sur la résistance en Europe occidentale.
Oui, absolument. J'avais assez envie de décloisonner, au fond, notre histoire nationale et de comparer la résistance française aux autres résistances de l'Europe occidentale.
Bon, vous ne parlez que des pays d'Europe occidentale, pas de ceux où a été vainqueur l'armée rouge.
Non, dans la mesure où ce qui m'intéressait, c'était de comprendre la manière dont les Britanniques et les Américains concevaient l'action résistante en liaison avec un futur débarquement.
Toutes les situations sont particulières, on ne va pas parler de cette situation particulière que vous examinez avec humour, qui est celle de l'Italie, situation particulière parmi les situations particulières. Vous nous pardonnerez cette impasse. Et on va commencer par l'année 1940, les Anglais seuls, avec des co-belligérants réduits aux acquêts, eh ben, ils ont quelques leviers à leur disposition, la propagande, la diplomatie, les services secrets. Juillet 1940, la naissance du fameux SOE ne se fait pas exactement sous les auspices qu'on imagine de professionnalisation.
Non, en fait, le Royaume-Uni en 1940 est dans une situation paradoxale. D'une part, il est extrêmement soulagé d'avoir évité l'invasion de l'Angleterre par les Allemands, puisque les Allemands ne pourront pas débarquer. Les Anglais ont gagné la bataille d'Angleterre dans les airs. Mais de l'autre, ils n'ont pas les moyens de lancer un débarquement et de repartir à la conquête de la forteresse Europe. Donc, que faire? Alors, que faire? Cela veut dire mener une stratégie périphérique avec la Royal Air Force, avec la Navy, en Égypte, en Libye, et puis aussi s'appuyer sur la guerre subversive.
Alors
et
c'est là que l'imagination de Churchill s'échauffe. Il trouve d'ailleurs des alliés, même chez les travaillistes, avec un ministre et tout à fait étonnant, qui est l'animateur du SOE au début.
Oui, donc vous avez cette idée que des peuples sous la botte ne tarderont pas à se révolter. Et Churchill va donc charger quelqu'un qui s'appelle Hugh Dalton, qui est ministre de la guerre économique, de mettre sur pied le Special Operations Executive, le SOE, qui est chargé, dit Churchill, d'embraser l'Europe. Et donc, paradoxalement, alors que l'heure est sombre, vous avez un vent d'optimisme qui parcourt les cercles dirigeants britanniques, en se disant que les peuples, eh bien, ne tarderont pas à se révolter. Au fond, l'Europe occupée par les Allemands est un baril de poudre, il suffit de fournir le détonateur.
Alors la mèche, ça peut être la radio. Alors en juillet 40, août 40, sont fondées plusieurs radios inscrites dans la BBC et dévolues aux pays co-belligérants. On va entendre Radio Orange, où s'exprime pour la première fois la reine Wilhelmine, qui est passée outre-Manche. Nous sommes le 28 juillet 1940.
Hiermee wordt ingeleid een geregelde radio-uitzending op dit.
Nous introduisons une émission régulière, un programme hollandais sous l'égide du gouvernement hollandais. Nous avons nommé cette émission Radio Orange. Ce nom doit désormais être annoncé nos 15 minutes hollandaises par des Hollandais pour les Hollandais. Chers auditeurs, Sa Majesté la Reine.
Het verheugt mij bijzonder dat dankzij de welwillende medewerking van de Engelse autoriteiten dit Nederlandse kwartier in de uitzendingen van de Britse radio is ingelast.
Je me réjouis que cette radiodiffusion hollandaise ait été insérée dans les émissions de la radio britannique.
Voortaan.
J'espère que beaucoup de concitoyens, où qu'ils soient, seront des auditeurs fidèles des discours patriotiques qui les atteindront par cette longue route.
Ici Radio Belgique.
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 Travaillez mal et lentement, c'est combattre les Allemands.
Des radios qui sont insérées, la reine l'a dit, dans les programmes de la BBC, laquelle a ses intérêts. Vous insistez beaucoup sur les contradictions que vous voyez jouer, Olivier Vivorca.
Oui, parce que d'une part, les petits alliés, comme les appellent les Britanniques, vont disposer à la BBC de plages et donc vont pouvoir faire des émissions de radio à destination de leurs compatriotes. Et de l'autre, les Britanniques se méfient. Ils se méfient d'une part parce que les intérêts nationaux ne coïncident pas nécessairement. Et puis ils se méfient également parce que, au fond, la propagande qu'adressent les pays, eh bien, elle doit être en phase avec la stratégie britannique et avec les intérêts britanniques. Donc on ne peut pas imaginer... pense Winston Churchill, d'avoir une radio belge qui va inciter les Belges à la révolte si, au contraire, l'état-major britannique n'a pas décidé que la révolte était à l'ordre du jour. Et donc, ces contradictions sont extrêmement nombreuses.
La censure passe au crible les émissions des radios des petits alliés. Et puis, Londres considère souvent de haut la technique, le style de ces radios. Là, on a entendu la radio belge. Bon, elle s'est améliorée peut-être au contact des Français par le taux français, mais elle était un peu solennelle au début, disent les Anglais.
Oui, et cela déplaît très fortement aux Britanniques. Ils sont absolument horrifiés par le ton de la radio hollandaise qui refuse de la musique, parce que dans ce pays calviniste, la musique, c'est le diable. Donc quand on parle de choses sérieuses, il faut être sérieux. Et donc du coup, les émissions françaises, et notamment les Français parlent au français, vont faire au fond figure d'exemple et inspirer une partie de la propagande radiophonique.
Et les Belges vont peu à peu donc prendre des leçons. Vous citez le nom du speaker de Radio Belgique, speaker francophone, c'est Victor de Lavelet qu'on entend ici introduisant une opération de propagande que toutes les radios des pays co-belligérants ont orchestrée ensemble au début de 1941.
Comme signe de ralliement, la lettre V. Pourquoi ? Parce que V, c'est la première lettre de victoire en français et de Freiheit liberté en flamand. Deux choses qui vont ensemble, comme wallons et flamands marchent en ce moment la main dans la main. Deux choses qui sont la conséquence l'une de l'autre. La victoire qui vous rendra la liberté, la victoire de nos grands amis anglais.
Il ne faut pas désespérer, on les aura. Il ne faut pas vous arrêter de résister. N'oubliez pas la lettre V. Écrivez-la, chantonnez-la, VVVV. Sur les murs et sur les pavés, faites des V. Mais vous pouvez faire en des V les doriforts. Et sans remords, et sans danger, vous sifflerez, vous chanterez VVVV.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Livre important sur la résistance en Europe occidentale par Olivier Wieworka aux éditions Perrin. Bon, ça a eu un grand succès, l'opération DV, au début et au milieu de 41.
Ça a eu un immense succès dans la mesure où ce qui avait été lancé de manière un petit peu impromptue par ce speaker belge, Victor de Lavelay, va être repris dans l'Europe entière. Ce qui va inquiéter les Britanniques, car au fond, ils sont dépassés par le succès de l'entreprise. Les V se multiplient dans l'Europe entière, et donc, au fond, l'Europe entre dans une forme d'ébullition, et les Britanniques savent qu'ils ne pourront pas envoyer de troupes. Donc, jusqu'où accepter l'ébullition des peuples sous la botte? Voilà le dilemme qui s'oppose aux Britanniques.
Le lait sur le feu, oui, mais... Et vous insistez beaucoup sur ce point, fin 41, début 42, la guerre prend une autre dimension, avec l'arrivée des Américains, qui vont d'ailleurs superposer au SEE, juxtaposer au SEE leur propre service, et surtout avec l'entrée en guerre de l'URSS, qui fournit à la propagande beaucoup d'exemples, comment dire, autrement éclatants que la résistance par les V, exaltant même.
Les très grands succès de l'armée rouge... Et le très grand courage des résistances communistes vont effectivement poser des problèmes aux Britanniques qui se demandent que peut-on fournir, que peut-on offrir comme rêve au peuple sous la botte. Alors les Britanniques réfléchissent en disant on pourrait peut-être leur dire que les ouvriers britanniques mangent de la viande deux fois par semaine, mais ils se rendent bien compte que face au pouvoir de rattraction du communisme d'une part et de l'Union soviétique d'autre part, eh bien il y a un problème et je crois que ce problème ne sera pas véritablement surmonté par les anglo-américains qui essayent de vendre la charte de l'Atlantique qui promet des grandes libertés mais dont le pouvoir, disons, évocateur dont la capacité à faire rêver les peuples sous la botte se révèle beaucoup moins fort que le pouvoir d'attraction du drapeau rouge.
Oui, mais il y a l'horizon du rêve, Olivier Wieworka. Il y a aussi un effort que vous décrivez bien de professionnalisation, de rationalisation de l'action des Britanniques. Hugh Dalton va être promu à un poste en principe plus élevé. On va avoir maintenant des professionnels peut-être moins romantiques et qu'on juge plus efficaces. Et l'accélérateur et le frein vont fonctionner ensemble le moins mal possible, avec une distinction dont vous dites qu'elle est binaire. D'un côté, il y a l'action en direction des populations, l'action en direction des masses, montrer à chaque occasion la possibilité de manifester son hostilité. Récit. Ça se faisait assez régulièrement à la BBC. Parler français, parlent aux français. Des exemples de l'insoumission qui pouvait éclairer ici ou là les paysages. On a un peu oublié la Scandinavie qui est importante dans votre livre, on la retrouve.
En Norvège, on répétait tout récemment une nouvelle pièce de théâtre. Tout au long de l'action, une espèce de grosse brute de boxeur professionnel passait son temps à abattre sauvagement chacun des adversaires qui lui étaient successivement opposés. Mais tôt ou tard, cependant, au cours de la pièce, chacune des victimes faisait une nouvelle réapparition. Or, les autorités allemandes interdirent la pièce après la répétition générale. Quelqu'une d'entre elles avait sans doute fini par comprendre l'allégorie. Écoutez cette autre histoire qui nous vient du Danemark. Un jour de grande rencontre de football entre les équipes nationales du Danemark et de la Suède, on radiodiffusait les phases préliminaires de la cérémonie. Une foule de 40 000 personnes, debout, se mit à chanter les hymnes nationaux des deux pays. Il n'avait pas été prévu par les organisateurs qu'on chanterait également l'hymne national norvégien. Cependant, la foule l'entonna spontanément, et la presque totalité en avait déjà été diffusée, lorsque la Gestapo, s'avisa enfin d'interrompre la transmission.
Faute de coups d'éclat extraordinaires, il y a l'importance de ces anecdotes. Le mot est utilisé par les speakers de la... des Français parlent aux Français.
Oui, donc vous avez la volonté de la part des Britanniques et de la part des pouvoirs en exil de montrer aux masses qu'elles peuvent agir, mais dans certaines limites. Donc quelles sont les préconisations des Britanniques et des petits alliés? C'est de demander aux masses de travailler lentement, ce que nous avons entendu. De montrer également que les Allemands ne sont pas les bienvenus dans les pays occupés. Et donc d'opposer ce que Vercors appellerait le silence de la mer à la présence de l'occupant. Et dans le même temps, si les masses sont poussées à agir, les Britanniques et les pouvoirs en exil ont très peur en même temps qu'elles commettent l'irréparable. L'irréparable, c'est une insurrection généralisée, c'est une grève généralisée. Et donc il faut cantonner cette protestation des masses dans des limites qui évitent un bain de sang. La peur du bain de sang, la peur d'une insurrection prématurée hante véritablement les dirigeants alliés.
Cependant, dans les mouvements, dans les masses, on va continuer notre division binaire. Dans les masses, il y a des mouvements. Et puis il y a des élites formées, militarisées, c'est les réseaux. On y viendra tout à l'heure. Dans les mouvements qui animent les masses, il peut y avoir des actions avec pas beaucoup de moyens, avec pas beaucoup d'armes, des actions de sabotage par exemple, des actions de révolte. On va avoir aux Pays-Bas des maisons de collaborateurs incendiées.
Vous avez effectivement ce genre de mouvement, mais les dirigeants alliés et les stratèges s'en méfient, car un sabotage peut ne pas être véritablement utile tout en engageant la vie des résistants qui le commettent, tout en suscitant éventuellement des représailles. Donc, ce que souhaitent les alliés, c'est que la liste des sabotages, la liste des cibles, soit élaborée par leurs services. Et c'est un élément qui va conduire, par exemple, au sabotage de l'usine de l'eau lourde à Vemork, en Norvège, en 1943, ou à la destruction de tel pont, de telle usine de roulement à billes. Donc, ce que souhaitent véritablement les alliés, c'est coordonner cette action de sabotage en fonction de plans qui assignent des cibles précises aux résistants.
Le mouvement qui anime la masse, c'est celui qui a pour référence la population. Le réseau, distinction binaire que vous citez, faite par Claude Bourdet, le résistant français notamment, c'est le groupe qui est en liaison étroite avec un état-major. Alors je vous propose d'observer, avec un son tiré d'une excellente émission de Barrère et de Laloux à la télévision en 1958, un réseau qui œuvre dans le Jura, à Villevieux. Alors, soit un château habité par les étonnantes sœurs Bergerot, voyez, dans leur bergère, leur salon, les cheveux bien tenus, le camé au bout du cou. Elles accueillent soit des parachutés anglais dans une des chambres du château, soit des dizaines de personnalités, si on fait le total, de la résistance qui passent en Angleterre ou qui reviennent d'Angleterre, Moulin, de Lestrin, Vincent Auriol, Aubrac. Soit à côté, à quelques kilomètres du château, un terrain d'aviation clandestin où œuvre la nuit, clandestinement, donc un trio de camarades paysans.
Comment ça se passait le balisage?
Le balisage, c'était le camarade Maurice qui s'occupait de ça.
On balisait avec sept lampes, dont cinq lampes sur un balisage de 500 mètres, cinq lampes blanches et une lampe rouge à chaque extrémité du balisage, et une lampe blanche à droite de la première lampe rouge. Et l'avion devait atterrir à droite du balisage entre la lampe blanche et la lampe rouge, la première lampe rouge.
Est-ce que vous avez eu des ennuis quelquefois?
Ah ben, c'était temps que ça finisse, l'histoire. Parce qu'on allait en avoir.
Il y a un avion qui s'est embourbé, qui ne pouvait plus démarrer. On était obligé d'aller chercher des bœufs, et puis des plateaux, enfin... C'était dur à repartir. Enfin, on est arrivé tout de même à le démarrer.
Les bœufs n'ont rien fait.
Non, mais à force de pousser l'avion, on a pu le démarrer, mais c'était temps parce que le jour pointait.
On a creusé des tranchées
dans les
roues.
C'était des tranchées dans les roues, qu'on engageait des plateaux dessous, puis alors l'avion s'est dégagé tout seul.
Et les Allemands ne s'apercevaient pas qu'il se passait quelque chose de lourd?
Non, si, seulement ils n'osaient pas venir la nuit. Ils arrivaient le lendemain matin, mais l'avion était parti il y a longtemps.
Pourquoi est-ce qu'ils n'osaient pas venir?
Parce qu'ils avaient peur de la riposte.
Ah, il y avait du maquis, là?
Ah oui, il y avait des postes de surveillance. Ouais. On était tous armés. On ne sait peut-être pas qu'on voulait faire grand-chose, mais enfin, ça, on était armés quand même.
On était armés quand même, on ne pouvait peut-être pas faire grand-chose. On revient, Olivier Vivorca, dans un instant, à cette question qu'il ne faut pas oublier. On est en 43 maintenant, et il y a des maquis. Oui, mais je voudrais que vous nous parliez des avions. Parce que il n'y a pas tant d'agents anglais que ça qui ont pu être parachutés. Ou du moins, il aurait pu y en avoir davantage qui avaient été formés par le SOE, par exemple. Mais il n'y avait pas d'avion pour les transporter.
Il n'y a pas d'avion parce que les patrons de la Royal Air Force pensent que la guerre subversive n'a aucun intérêt. Et donc l'idée de soustraire leurs précieux bombardiers pour soit envoyer des armes, soit parachuter des hommes, c'est une idée qui les horrifie. À leurs yeux, la guerre sera gagnée contre l'Allemagne grâce au bombardement stratégique. En pilonnant le Reich, en envoyant des bombes, on gagnera la guerre. Et donc, ils s'opposent très fermement aux demandes répétées du SOE, ce qui veut dire que le SOE a des armes, le SOE a des agents, mais qu'il ne peut pas les envoyer.
Le pire, c'est quand il faut envoyer des tracts depuis les avions. Alors ça, pour les responsables de, oui, alors, de l'aviation britannique...
Moi, j'ai été très surpris par l'idée que la RAF inondait de tracts l'Europe. Alors, j'étais étonné parce que...
Vous avez fait le compte, quand même.
Fait le compte, oui, c'est des millions de tracts. Et le premier étonnement, c'est pourquoi envoyer des tracts alors qu'on a la radio? Et la réponse est simple, c'est que les radios peuvent être confisquées, les radios peuvent être brouillées, les radios tombent en panne, et donc le tract va être un moyen supplémentaire pour adresser des consignes à la population. L'autre élément qui m'a surpris, c'est que j'imaginais très naïvement qu'un équipage était heureux d'envoyer des tracts plutôt que des bombes. Pas du tout, cette mission est un cauchemar, parce qu'au départ, les tracts sont lancés par une porte latérale et non par une trappe. Donc les tracts s'envolent avec le vent dans la carlingue, arrivent jusqu'au cockpit. Et par ailleurs, les personnes qui jettent les tracts par cette porte latérale sont des mitrailleurs, ce qui veut dire que pendant qu'ils font cette mission, eh bien l'avion n'est pas protégé. J'ajoute que les tracts lancés déséquilibrent l'appareil, donc vous aurez compris que cette mission est un cauchemar pour les équipages.
Et les conteneurs d'armes? Parce que nos amis camarades paysans du Jura, ils ont quelques armes. Peut-être viennent-elles de conteneurs?
Alors, les armes vont être effectivement un énorme problème. Il faut souligner que jusqu'en 1944, la Grande-Bretagne et les États-Unis sont plutôt chiches. Ils hésitent à armer la résistance. Mais ils hésitent à armer la résistance aussi pour des problèmes logistiques. C'est très compliqué d'envoyer des conteneurs. Envoyer des conteneurs, d'abord, certains résistants se plaignent de ne pas recevoir les armes qu'ils ont demandées. Mais le problème logistique est énorme. Si vous voulez standardiser les conteneurs, eh bien vous êtes obligé de faire des conteneurs types. Et donc les Britanniques, pour accélérer le rythme, vont choisir 4 types de conteneurs qui contiennent donc 4 chargements différents.
Tout ça donne une idée du travail d'enquête très précis que vous avez fait. Et on va faire un autre focus maintenant, si vous le voulez bien, sur la Belgique, pour ne pas perdre le fil, la résistance en Europe occidentale. En Belgique, comme ailleurs dans l'Europe occupée, à partir de la fin 42, réquisition des travailleurs. Alors peut-être un certain nombre, le tiers des gens réquisitionnés en France sont-ils partis dans les maquis? C'est plus difficile en Belgique, et la résistance se sent la responsabilité de protéger les populations des réquisitions et des représailles possibles, d'autant que en Belgique, on se souvient de ce qui s'est passé pendant la Grande Guerre, notamment en 1914. Alors comment cela s'organise-t-il pour continuer sur la Belgique?
Ce qu'il y a de très intéressant en Belgique, c'est que, en gros, les Belges, comme les autres pouvoirs en exil, ne veulent pas envoyer de travailleurs, tout simplement parce que cela facilite l'effort de guerre allemand. Ils vont donc mettre en place une organisation qui s'appelle Socrate, et Socrate va financer les ouvriers qui refusent de partir en Belgique et qui plongent dans la clandestinité.
En Allemagne.
Et donc, l'idée est bien de cacher ces hommes, elle n'est pas de les transformer en résistants, et c'est l'une des différences majeures entre la France et la Belgique. L'autre élément, c'est que le gouvernement belge, à la différence de la France libre du général de Gaulle ou des autorités britanniques, va mettre énormément d'argent dans cette organisation qui s'appelle Socrate, ce qui va permettre, selon les estimations, de 27 à 50 000 Belges d'échapper au travail obligatoire en Allemagne.
Oui, les autorités gaullistes voulaient maintenir, en revanche, résistants et réfractaires du côté français dans un état, je dis pas de surchauffe, mais de guerre et de veille plus forte. Tandis qu'encore, en 1944, dernier son issu de Radio Belgique, on appuyait sur le frein, en même temps la libération approchait, qu'on revendiquait l'amplification de la résistance. Toujours le double mouvement.
Ce message est adressé au peuple belge tout entier. La Belgique fait la guerre. L'ampleur et l'intensité toujours croissante de la résistance des patriotes en Belgique causent à l'ennemi de graves difficultés, particulièrement dans ses problèmes critiques de main-d'œuvre, de transport et d'administration. Cette résistance apporte donc une aide militaire très précieuse à la cause alliée. Le haut commandement se plaît à le reconnaître, sachant fort bien qu'elle s'amplifiera constamment à mesure que l'expérience vient, que la discipline se renforce et que la masse de la population apprend à connaître les meilleures méthodes d'assistance effective. Mais il est nécessaire d'ajouter un avertissement. Il ne faut pas que dans la chaleur de votre enthousiasme ou par suite d'une provocation intentionnelle de l'ennemi, ce mouvement de résistance échappe au contrôle au point de mener à une explosion de révolte désordonnée contre les forces d'occupation, ce qui serait prématuré et dès lors désastreux.
Vous étudiez en détail ce qui s'est passé dans les processus de libération plus rapides en Belgique et en France qu'aux Pays-Bas, interminables en Norvège et au Danemark. Le haut commandement allié se plaît à reconnaître le rôle des résistances, c'est ce que dit la radio belge. Bon, les historiens disent que le bilan militaire est mitigé. Cependant, s'il n'y avait pas eu les résistances, Olivier Vivorca, l'Europe n'aurait pas été libérée dans les mêmes termes.
Non, et je crois que de ce point de vue, il faut peut-être voir aussi ce qui se passe en Libye, en Irak. La libération de l'Europe occidentale a été une réussite qui n'a pas débouché en Europe occidentale sur une guerre civile, qui n'a pas débouché sur le désordre. Et ceci est bien la hantise des alliés. Ce qu'ils veulent, c'est que l'ordre et la loi, law and order, soient maintenus en Europe occidentale, tout simplement parce que la guerre va continuer contre le Reich et qu'ils ne peuvent pas se permettre de gérer le chaos sur les arrières de leur ligne. Et de ce point de vue, la résistance dans tous les pays d'Europe occidentale que j'étudie, Norvège, Danemark, Belgique, France, Pays-Bas et Italie, eh bien la résistance va contribuer à maintenir l'ordre, tout simplement parce qu'elle est reconnue comme légitime par les Britanniques et par les populations, et parce que également elle fait preuve d'un très grand sens des responsabilités et qu'elle joue pour aller vite le jeu de la légalité et de l'union nationale.
Donc c'est un étonnant paradoxe, un processus né de l'insoumission et de la révolte garantit l'ordre, l'autorité et aussi la démocratie.
Absolument, et c'est effectivement un paradoxe que soulignent par exemple les Danois. Ce qui était au départ un mouvement qui devait être insurrectionnel va être un mouvement qui va garantir la loi et l'ordre et permettre quand même aussi à l'Europe de partir sur une base démocratique relativement solide.
Habile conclusion, Olivier Vivorca, une histoire de la résistance en Europe occidentale. C'est votre dernier livre aux éditions Perrin. Cette émission a été préparée par Frédéric Martin avec à la technique Ludovic Asselot. La réalisation, c'était Valérie Estaraï, un professeur au Collège de France, dans la tête au carré, Mathieu Bidard.
Oui, absolument, Jean, avec Alain Prochain dans un instant. Vous savez que nous aimons les questions toutes simples dans l'émission. Et aujourd'hui, ce sera « Qu'est-ce que la vie ?»
Et c'est même mieux qu'un professeur, c'est aussi l'administrateur du Collège de France. C'est donc dans quelques instants dans votre émission.